Instant Bistrot de la vie. Changer de vie, se recentrer sur l'essentiel. C'est le sujet de notre émission ce matin. Accidents, maladies, rencontres nous imposent parfois de revoir nos priorités, de changer le cap de notre vie quand il n'est pas radical. Un changement qui peut se jouer dans la douceur, la lente prise de conscience que notre existence n'est pas ou plus tout à fait ajustée à nos valeurs, à nos envies, à nos aspirations. Pas toujours facile alors de chambouler ses habitudes, de faire les concessions qui s'imposent parfois et de prendre un nouveau départ. Alors oser changer de vie, se recentrer sur l'essentiel. On en parle ce matin avec mes invités. Alain Amselek, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation un peu au pied levé, il faut bien le dire. En tant que psychanalyste, vous êtes le témoin peut-être de ces désirs de changement, de ces pulsions de vie, hein, j'allais dire, qui nous poussent parfois à revoir notre existence et puis tout simplement peut-être de ces tristesses quand rien ne semble possible. Merci donc d'être là pour nous apporter votre regard, votre humanité et votre expertise. Vous avez vous-même connu plusieurs changements de cap, pas de vie mais de cap, et vous êtes auteur de plusieurs livres, dont celui-ci, L'ouverture à la vie, la psychanalyse au XXIe siècle, un ouvrage très très important qui constitue finalement le troisième volet de ce qu'on pourrait appeler une trilogie. C'est paru très récemment aux éditions des Clés de Brouwer. À vos côtés, j'ai le plaisir de recevoir Steven James Gunnell. Bonjour Steven.
Bonjour.
Merci de nous faire l'amitié de votre présence ce matin. Le changement que vous avez vécu, il porte un nom, il s'appelle Conversion. Il y a un peu plus de 10 ans, vous chantiez avec le célèbre groupe Alliage, qui fait encore des émules. Hein. Aujourd'hui, vous êtes à la fois auteur, compositeur, comédien. Vous avez notamment interprété Carole Volkila hein, dans le spectacle célèbre de Robert Hossein qui porte son nom. Votre histoire, vous l'avez racontée dans ce livre, Sacrifié des mirages de la gloire aux merveilles de la foi. Tout est dit presque, et c'est paru aux presses de la Renaissance. À vos côtés, j'ai le plaisir de recevoir Pascal Soubéra, l'ami. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Il fallait une femme, la voilà. Merci d'avoir accepté mon invitation. Pascal, vous êtes aujourd'hui créatrice et gérante d'un site qui s'appelle Anatole Bis. Bise. Hein, précisément, mais je saute un peu. Hein. Et puis, vous avez été pendant 20 ans salarié de France Télécom. Alors, vous n'êtes pas là pour parler du scandale de la souffrance au travail de France Télécom. C'est pas pour ça que vous avez quitté France Télécom, pour bien d'autres raisons que vous allez nous faire partager ce matin, notamment parce que vous avez la vie est arrivée, vous avez eu un troisième enfant dans des conditions un peu particulières, vous allez nous les expliquer, et que là, ça a été l'occasion pour vous de revoir vos priorités. Je n'en dis pas plus, et on retrouvera une autre Pascal, Pascal Musca, qui elle aussi a un parcours hors du commun. Alors, première question, je la pose à vous, Alain Amselek. Ce titre hein, que j'ai voulu donner à l'émission, Changer de vie pour se recentrer sur l'essentiel, est-ce qu'il vous semble pertinent? Est-ce que quand on change de vie, on a le d'abord, est-ce qu'on sait qu'on est en train de changer de vie? Est-ce que c'est une volonté que l'on a, que l'on met à l'œuvre?
Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce puisse être vraiment une volonté. La volonté vient après. L'essentiel, c'est le désir. Et le désir est inconscient. Donc, au départ, on ne sait pas très bien ce qui nous arrive quand on change de cap, parce que ce n'est pas rien de changer de cap, ça veut dire quitter une certaine structure dans laquelle nous sommes plus ou moins enfermés, quand nous avançons dans la vie en nous identifiant, et nous allons d'identification en identification, et se désidentifier n'est pas facile.
Ça veut dire quoi s'identifier à la Amselek? Ça veut dire qu'on se construit des personnages les uns après les autres?
C'est-à-dire qu'on crée un lien affectif à un certain entourage. Alors, Freud, quand il parlait d'identification, il parlait bien sûr avant tout d'identification aux parents. On se construit au début de la vie en s'identifiant à ses parents, soit de façon positive, soit de façon négative d'ailleurs, selon aussi son sexe. Hein, en général, le garçon s'identifie à son père et la fille à sa mère. Et en même temps, ça va pas sans problème et sans conflit.
Vous parlez d'une forme de confort finalement que l'on atteint quand on s'est installé dans ces identifications. C'est pour ça que le changement fait peur?
Oui, parce que nous sommes fondamentalement en proie à ce qu'on peut dire, ce que Freud appelait des pulsions. Hein. C'est-à-dire que ce qui nous gouverne essentiellement, c'est deux types de pulsions, les pulsions de vie et les pulsions de mort. Et ces deux types de pulsions font partie de la vie en même temps. C'est ça le paradoxe, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir les pulsions de mort comme étant forcément antagonistes à la vie, mais ils sont antagonistes aux pulsions de vie.
Ça veut dire que notre vie est une succession de tentations de se laisser aller et puis de tentations d'aller vers ce qui nous paraît nous appeler. Enfin, on sent ces appels de vie.
Oui, c'est-à-dire que nous sommes en fait divisés entre une vie intérieure que nous n'avons pas toujours, c'est-à-dire dont nous n'avons pas toujours conscience, parce qu'il y a l'autre vie, la vie extérieure. Alors, la vie extérieure, aujourd'hui dans notre société, nous sommes presque tous à vivre à l'extérieur de nous-mêmes sans cesse. C'est-à-dire la société nous appelle à vivre dans l'extérieur. Et même les philosophies, les théories qui circulent nous font croire qu'il n'y a que de l'extérieur, que tout est extérieur, qu'il n'y a pas d'intérieur.
Donc on travaille beaucoup moins sur son être profond,
voilà.
On est beaucoup moins connecté à ses désirs profonds.
Et c'est-à-dire qu'on abandonne, c'est abandonner sa vie intérieure, c'est abandonner sa vie propre, et pour aller s'identifier uniquement à ce qui est extérieur à nous. Et donc, on a sans cesse, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre à la fois dans ces deux vies. Elles sont indispensables, ces deux vies. Hein. Il ne faut pas privilégier la vie extérieure en déniant la vie propre, la vie intérieure, mais il ne faut pas faire l'inverse non plus, vivre dans une vie complètement intérieure et ignorer la vie extérieure, parce que la vie extérieure, c'est les autres.
Quand je disais en introduction qu'on se sent parfois mal ajusté, est-ce que ça c'est un élément qui peut nous permettre discerner le moment où il faut changer ?
Tout à fait, c'est-à-dire qu'on a sans cesse à négocier entre cette vie intérieure et cette vie extérieure. Et qui peut se faire, donc on sente des sortes de conflits qui deviennent tellement aigus que nous sommes obligés, là, de changer.
On va revenir sur ces indices, j'allais dire, qui sont parfois des émotions, souvent,
oui, hein,
ces indices du changement, qui doivent nous pousser à changer. Je me tourne vers vous, Steven. On l'a dit, donc vous, 2001, vous rentrez dans une église, ça va pas très fort dans votre vie, qui est justement très extérieure.
Oui.
Vous êtes une star de la musique, une idole, donc peut-être le risque d'être un peu désincarné, d'avoir été vendu au public. Et à ce moment-là, c'est cet être profond qui vous est donné d'entendre à nouveau. Racontez-nous.
En deux mots, en effet, pour souligner ce que disait monsieur en Sélec, c'est qu'il y a, en effet, le désir est inconscient. Et de façon, sans pouvoir l'expliquer, de façon inconsciente, simplement par contre, en répondant par une vertu d'obéissance qui était pour moi le déclencheur. Cette vertu d'obéissance qui a eu le désir de répondre dans un acte de soumission dans l'amour pour faire plaisir à maman avant de me faire plaisir à moi, qui elle démunie de toute idée pour essayer de me sortir de la mer dans laquelle j'étais à l'époque.
Concrètement, vous étiez
déchu, alcoolique, dépressif. C'était l'après boys band. Il y avait plus de travail, il y avait plus de réussite, plus de gloire, plus de notoriété. On était déchu. Voilà, on était devenu des has-been, on était dépassé. Et justement, l'extérieur, le paraître, ne suscitait plus du tout d'intérêt, de regard, de désir ou de quoi que ce soit. Donc
et là, vous avez compris que finalement, le registre sur lequel vous étiez construit était en train de se casser la figure.
Ah oui, complètement. Bah, en fait, c'était de l'éphémère. Donc forcément, il y a un moment donné, c'est la symbolique de celui qui bâtit sa vie sur le sable. là. Il y a un moment donné, voilà, sur le futile, sur l'éphémère, sur le clinquant, le brillant. Et à l'intérieur, je n'ai eu le temps de rien construire. Donc, de fait, quand l'extérieur a été détruit par la mode des courants qui passent, etc., et de même, on fait la même chose avec des êtres humains, il y a un moment donné où, à l'intérieur, comme j'ai eu le temps de rien construire, c'est parti en lambeaux avec.
On pensait, et donc, si à un moment donné, si... pardon. Excusez-moi de vous interrompre. On va revenir sur la question de votre maman et sur ce désir qui est peut-être venu de l'extérieur, mais qui a fait écho au votre propre. Mais vous pensez que si vous n'étiez pas descendu si bas, si on avait continué d'aduler Stephen Gunnell, à l'époque c'était pas Stephen James, hein, c'était Stephen Gunnell, on reviendra là-dessus d'ailleurs, mais si on avait continué à l'aduler, vous auriez peut-être continué à ne pas finalement être véritablement vous-même, vous n'auriez pas saisi cette opportunité.
Vraisemblablement. Vraisemblablement parce qu'il y a aussi la complaisance. La complaisance d'être dans ce que l'on est, dans ce que l'on fait, sans véritablement chercher à comprendre, ni vouloir évoluer, mais simplement se satisfaire de la situation. Et ça va dans les deux sens. Ça va dans l'aspect, justement, comme le signait... je vais vous appeler docteur. Le docteur Anselm. Voilà, docteur de la vie, en tout cas, docteur des âmes.
On vous apporte une blouse, hein.
Voilà. Il disait de façon très juste qu'il y a... ce qui est de l'intérieur, ce qui est le soi et le moi, hein, et il y a un moment donné où, en ce qui me concernait, cette espèce de pulsion de vie ou cette espèce de pulsion de mort, le combat intérieur toujours, qui fait qu'à un moment donné, on finit par se complaire dans l'amertume, dans le deuil, on finit par se complaire dans la dépression, on finit par se complaire aussi dans le sens du pouvoir, de la domination, etc. Et le premier danger de l'individu, c'est la complaisance, c'est de faire du surplace dans ce que l'on vit, dans ce qui nous satisfait, sans vouloir essayer de changer, d'évoluer, etc.
Ça veut dire que même dans cette difficulté que vous nous décrivez, vous étiez complaisant à l'égard de vous-même, vous étiez en colère,
oui,
et
voilà.
Vous ne cherchiez pas un ressort pour vous en sortir.
Non, parce que pour moi, il y avait ce jugement que je portais sur moi, et cette espèce d'autoflagellation en disant, voilà, ce qu'on entend d'ailleurs, hein, depuis tout petit à l'école, avec cette espèce de prédominante qui essaye d'influencer sur les jeunes, avec l'orgueil, l'ego, t'as pas de parole, t'as juré, sois un peu, sois fort, sois responsable de tes actes, assume, va jusqu'au bout de ce que tu penses, de ce que tu dis, etc. Il y a un moment donné où moi, d'une certaine manière, je me suis puni, et je m'en suis voulu, et j'ai pris sur moi cette situation. Donc il y a un moment donné où je me suis dit, si moi je me pardonne pas, mais qui va me pardonner ? Donc c'est une espèce de renfermement sur soi. Et
Il y a eu cette rencontre avec le Christ, hein, évidemment.
Ça, c'est arrivé plus tard. Voilà. Mais donc il y a eu un moment donné, il y a eu un déclic, une démarche, comme quoi, tu vois, tout n'est jamais véritablement perdu. Il y a entre le désir et la volonté, il y a eu ce désir inconscient de vouloir aller me rattacher intérieurement sur des valeurs, sur du juste, sur du beau, sur du bon. La première image, première icône qui me soit venue, c'est celle de ma maman, qui, elle, me dit « rentre dans une petite chapelle pour être recueillir, ça ne te fera pas de mal ». Et c'est dans cet acte de volonté, de soumission, donc d'obéissance dans le domaine de l'amour, non pas pour me faire plaisir, mais pour une fois, c'était pas pour me servir, mais pour servir. Donc c'était pas quelque chose que je désirais faire, mais quelque chose qu'il fallait que je fasse. Tu vois, la notion entre le désir et l'autorité, entre ce que je veux moi, pour moi, ce qui me gargarise, et à un moment donné, je prends autorité sur ma personne.
Parce qu'il y avait de l'égoïsme, en fait,
dans
cette tragédie.
Purement, parce que toute ma vie a été ça, en fait. Ça a été, voilà, moi je suis l'enfant roi, je suis fils unique, j'ai toujours entendu dire que j'étais beau, merveilleux, fort, éblouissant, rempli de talent, j'ai fini par me complaire et par croire. D'une certaine mesure, j'ai un peu plus ou moins pété les plombs et été orgueilleux et un petit peu imbu de ma personne tout au long de ma vie, de mon existence, mais j'étais pas, dans le fond, une mauvaise personne. J'aimais servir, j'aimais m'occuper des autres aussi, j'étais généreux, j'avais le sens du partage, j'avais le sens du dévouement, j'avais tout ça, mais ça n'empêchait pas la face cachée, l'ombre de ma personne, la part obscure de mon être, de gonfler aussi et de prendre de la place jusqu'au jour où il y a un moment donné où...
Vous en étouffiez.
Ouais. Puis ouais, à un moment
de
donné...
votre ego.
Voilà. Et pour moi, la seule réalité était de venir... la quête, l'ouverture à la vie, pour reprendre le titre du livre de Dr. Anselm, il y a un moment donné où moi, je me suis dit, voilà, pour m'ouvrir à la vie, pour réussir, pour être heureux, pour m'aboutir, il faut que je devienne une personnalité. Il faut que je paraisse. Donc il faut que je me mette... devant la caméra ou sur scène, il faut que je devienne une star, un comédien ou un chanteur. Et c'est là que je suis monté à Paris et qu'accidentellement, j'oserais dire, sans, sans, sans aucune, il y avait rien de prématuré, il y avait rien de calculé. Je pensais pas vivre une telle expérience avec Alliage à l'époque, où là j'ai pris de plein fouet, de façon condescendante, insolente, de façon triomphale, je serais dire, ce phénomène de mode qu'on a connu de 96 à 99, où on a été,
voilà,
mais c'est, on a été un rouleau compresseur médiatique qui a mis loin derrière les têtes d'affiche, les plus grandes stars de France, mais etc. Voilà.
Je me tourne vers vous, Pascal Soubeyrat-Lamy. Pascal, votre histoire en quelques mots.
J'ai travaillé, comme vous le disiez, chez France Télécom pendant une vingtaine d'années, où j'étais responsable des relations publiques et où je travaillais essentiellement pour le sponsoring. Et puis j'ai connu cette sensation un peu diffuse de mauvais ajustement entre ce que j'étais, qui je suis réellement, et ce que je faisais tous les jours. Et puis, mon troisième enfant est né beaucoup plus tôt qu'on l'attendait, puisqu'elle est née à 5 mois et demi de grossesse. Et la première fois que je l'ai vue, quelques heures après sa naissance, j'ai été emportée par une admiration énorme pour le courage de cette toute petite fille de moins d'un kilo, qui n'avait rien à quoi se raccrocher à part ses propres forces, sa propre envie de vivre. Et donc on a vécu ensemble et avec mes deux aînés et avec son papa bien sûr cette période de prématurité qui était dure et très riche et très forte à la fois. C'était dur mais pas seulement, c'était aussi une belle période. Et je suis retournée travailler et là j'étais saisie par un sentiment d'absurde. Et un matin j'ai entendu mon réveil et je me suis dit qu'il n'était pas possible que pendant les 40 prochaines années tous les matins, mon réveil sonne pour que je me lève et que j'aille faire automatiquement des choses avec lesquelles j'étais en désaccord.
C'est-à-dire que de ce sentiment diffus que vous nous avez très bien décrit, de mal-être, mais finalement qui n'était pas suffisant pour vous faire vraiment bouger, c'est la naissance, l'arrivée de cette petite fille qui vous a fait vous déplacer et prendre conscience que vous étiez là dans l'absurde. Donc on est passé du mal-être diffus à un sentiment d'absurde fort, quoi.
Oui, et il y a eu une phase... environ 24 heures après sa naissance, que je reconnaissais bien dans ce que disait Steven tout à l'heure, pendant les 24 premières heures, je me disais que vraiment j'avais pas de chance et qu'il m'arrivait quelque chose de très dur et très douloureux d'avoir donné vie à une enfant si prématurée. Et au bout de 24 heures, je me suis dit, mais n'importe quoi, c'est pas moi qui galère, c'est pas moi qui souffre, c'est elle qui a besoin d'être soutenue et accompagnée. Et j'arrête l'autocomplaisance, l'auto-apitoiement, et voilà, je vais soutenir cette personne vraiment étonnante et
ce petit bout de femme,
ce petit bout de femme qui était entourée d'enfants tout petits, très vulnérables, très fragiles et si fort en même temps que je me suis sentie toute petite à côté d'eux.
Alain Selec, dans ces deux témoignages, on sent très bien que finalement on passe d'une définition assez factice de la vie à une vraie conscience de la valeur de la vie.
Absolument.
Approchez-vous un tout petit peu du micro.
Absolument. Ce qui me frappe dans tout ça, c'est d'une part le conflit entre l'imaginaire et le réel. Et c'est bien de ça, surtout Stevens parlait énormément de cela. Hein, c'est-à-dire que il a été happé par l'imaginaire. Et ce qu'on appelle parfois la malédiction des stars. Hein, à un moment donné, c'est le réel qui l'a abasourdi, qui lui a fait montrer que l'imaginaire, c'était du factice et que ça pouvait se diluer complètement et qu'il allait rester rien.
Mais un imaginaire qui s'était approprié au point d'en faire ses propres valeurs. Et j'allais dire, si on veut un petit peu élargir le propos à l'ensemble des auditeurs qui nous entendent, et pourquoi pas un discours sur la société qui nous entoure, est-ce qu'on n'est pas responsable d'avoir créé ses propres idoles, qu'elles soient des stars ou autre chose? En tout cas, on est dans la création d'idolâtrie permanente, non?
Oui, mais c'est le lot des êtres humains, c'est-à-dire de leur manière de se construire. Hein, c'est-à-dire qu'on est inachevé, c'est une chose qu'il faut bien savoir, on est inachevé et nous vivons constamment inachevé, heureusement, parce que c'est ce qui nous permet d'aller sans cesse de l'avant et de s'ouvrir sans cesse à la vie. Mais la vie, nous avons très peur de la vie. Nous sommes terrorisés par la vie. Là, on parle de la peur de la mort, mais la peur de la mort, c'est rien du tout à
côté. Qu'est-ce qui nous fait peur dans la vie, Alain Selek ? Après, je me tournerai vers notre invité.
Ce qui nous fait peur dans la vie, c'est ses intensités. On a peur de soutenir l'insoutenable.
Ça veut dire qu'on préfère parfois être un petit peu moribond ?
Voilà, absolument. Et c'est fou. On préfère vivre dans la mort, c'est-à-dire dans la mort, dans l'inertie, dans l'habituel, plutôt que de prendre le risque de s'ouvrir à la vie, parce que s'ouvrir à la vie, c'est s'ouvrir à l'inconnu de la vie. Et l'inconnu, on en a peur.
Si on pense aux parents qui nous écoutent, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Allez. Je sais que les psychanalystes n'aiment pas la vulgarisation, et c'est tout à fait à votre honneur, mais un petit truc à faire quand on est parent pour permettre justement que nos enfants soient ouverts à la vie, plus largement, même si ontologiquement on est un peu fermé.
Je ne crois pas que les parents puissent quelque chose, ou du moins, ils peuvent quelque chose, c'est être eux-mêmes ouverts à la vie. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire, c'est donner l'exemple de la vie. De l'être vivant qui n'a pas peur de vivre, qui n'a pas peur d'innover et de créer, parce que c'est ça la vie. La vie, c'est la créativité. Hein? Alors que la mort, c'est s'enfermer dans ce qui est et vouloir persévérer à tout prix dans l'être. Et à ce moment-là, et s'accrocher, persévérer dans l'être. Alors que nous sommes en réalité dans la vie. C'est dans le devenir. Nous sommes en devenir continuel. Ça veut dire que constamment...
Le changement est là, finalement. Il s'impose, il est consubstantiel à la vie.
Constamment, nous devons détruire et construire, et reconstruire. Constamment. Donc la créativité, c'est la chose essentielle pour qui nous est inspirée par notre manque à être. Parce que nous ne sommes pas, comme je disais, nous sommes inachevés, nous sommes dans un manque à être. Et c'est ce manque à être qui relance sans cesse notre désir.
Dans les deux témoignages que l'on vient d'entendre, docteur Amselek, puisque c'est comme ça que Steven a décidé qu'on vous appelle ce matin.
Professeur.
Je ne sais pas.
On voit bien que c'est la nécessité de donner la vie. Dans le cas de Steven, c'était un petit peu donner la vie à sa maman en lui obéissant. Et beaucoup, évidemment, répondre à cet appel de la vie de la petite de Pascal. Que c'est dans la nécessité de donner la vie à l'autre qui nous fait nous oublier nous-mêmes et nous retrouver finalement. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est parce qu'on s'est oublié qu'on se retrouve, non ?
Oui, absolument. C'est-à-dire que parce qu'on s'est oublié dans son être imaginaire, dans son être extérieur, ce que j'appelle le « moi », on se retrouve dans une vie dans une vie intérieure profonde, et on retrouve je dirais le mouvement de la vie, le mouvement de sa vie qu'on peut à cause de la vie que nous menons, la vie sociale, oublier.
C'est parfois le regard d'un autre bienveillant, un ami, un proche qui vous dit là, t'es plus toi-même, t'es en train de déraper, qu'on peut renouer avec son ego, parce que vous avez dit que son ego n'est pas toujours très bien fait, mais avec son moi, c'est ça.
Je disais tout à l'heure, c'est le conflit entre la vie et la mort, entre la destruction et la construction. Je pourrais dire le conflit entre le même et l'autre. C'est-à-dire que où on reste dans du même et on veut reproduire sans cesse le même, et là c'est la mort, ou si on veut être dans la vie, alors il faut s'ouvrir à de l'autre. Alors de l'autre en soi et de l'autre à l'extérieur. C'est-à-dire, il s'agit d'aller vers les autres, d'entendre les autres. Et automatiquement, on est nourri par l'autre.
Et de prendre le risque que parfois l'autre il soit dissonant avec ce qu'on pense.
Mais tout à fait, heureusement.
Bon. Steven Gunnel.
Pour ma part, je fais partie de la génération qui a été éduquée à travers ce genre de slogan « Je pense donc je suis ».
Oui.
Jusqu'au jour où j'ai fait l'expérience de « je suis parce que l'autre ». Et c'est là que, en fait, la conversion et le principe même de la conversion qui passe d'abord du désir qui est qui d'une certaine manière m'appartient pas, mais qui est une grâce, un don, qui est invisible, qui est inconscient, à la volonté d'être et de devenir. Donc c'est de « je me convertis », ça veut dire que je me tourne vers. Donc de fait, je me détourne d'eux. Donc si je me détourne de moi-même, je me tourne vers l'autre, et c'est à partir de ce moment-là que je prends comme Pascal avec cette extraordinaire expérience de la vie et de son petit bébé, de son troisième enfant, qui fait qu'à un moment donné, voilà, je me regarde le nombril, je souffre, c'est dur, c'est chiant, c'est pénible cette expérience, jusqu'à ce que, en fait, c'est pas moi, c'est elle qui a besoin de moi. Et c'est là que le regard sur soi-même, sur le monde et sur la vie prend une autre proportion. Et de façon extraordinaire, il y a tout ce vide intérieur qu'on essaie de remplir par la consommation qui ne fait que nous consommer d'une autre manière, qui fait qu'à un moment donné, voilà, ce vide se remplit parce que l'autre. Et de fait, il y a un sens, et il y a une direction vers un présent, non pas vers un avenir qui n'existe pas encore, ou un passé qui nous a laissé sur le carreau et qui nous esquinte, et devant lequel on s'accable tout le temps en disant « Mon Dieu, j'ai vécu tout ça, c'est dur, machin, les épreuves, etc. » Il y a l'ici et maintenant qui fait que, clac, avec cette prise de conscience et cette volonté de faire pour l'autre, qui fait que la vie prend une autre proportion, une autre saveur, une autre couleur, un autre parfum et une autre raison d'être.
Vous avez conscience, Steven Gunnell, que votre témoignage de vie pour vos enfants, puisque j'ai posé la question tout à l'heure à Alain Amselek, est un formidable témoignage de ne pas avoir peur et d'aller de l'avant?
Moi, je pars du principe que avant de vouloir avoir, avant de vouloir comprendre, avant de vouloir transmettre, il faut d'abord être. Il y a ce fameux dicton de Saint-Augustin qu'on aime à entendre encore et encore. Devenez ce que vous êtes et vous mettrez le feu au monde entier.
Voilà. On va retrouver Pascal Muscat. Devenez... Un dernier mot avant la musique, pardon, Alain Amselek. Pascal, vous avez peut-être l'impression que s'il y avait pas eu cet événement brutal dans votre vie, avec toute la beauté qu'il recèle, vous seriez encore, allez, peut-être pas chez France Télécom, mais chez un opérateur mobile, pourquoi pas.
Chez Orange peut-être.
Chez Orange.
Ce qui revient au même. Je sais pas si... Je me demande ce qui aurait pu me donner l'étincelle et le ressort pour sortir de ce mode de vie qui me convenait pas, où je me demandais à force de travailler, de passer des heures et des heures à travailler, à quel moment mes enfants m'appelleraient madame. Je sais pas ce qui aurait pu déclencher ça.
On va écouter un peu de musique. Il se trouve que c'est le titre, votre dernier titre, hein, Steven James Gunnell, que l'on pourra d'ailleurs retrouver sur votre site et puis sur le site de Radio Notre-Dame. On écoute J'ai le temps. On a le temps, vous voyez, on a le temps d'en parler et de prendre le temps d'oser la vie dans le bistrot de la vie. Et puis on retrouvera mes invités et Pascal Muscat, qui est avec nous par téléphone. À tout de suite.
Radio Notre-Dame. L'ivresse, aujourd'hui le temps presse. Soigner notre emballage, on est coincé dans l'engrenage. Aseptisé, bien net, politiquement correct. Ce qui compte, c'est la forme au fond et rentrer dans la norme. Le monde est connecté de cyberamitiés. Mais dès qu'il faut aimer, personne n'est prêt à s'engager. Se dépêcher, jamais se retourner. Je ne suis pas concerné, leur course ne me fait pas rêver. Car j'ai le temps. Je prends mon temps. I have a dream that one day on the former slave on, will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream. Ils ont le cœur brisé et l'âme fragile et déchirée. À vouloir s'accrocher, ils se sont sacrifiés. Des modernités les a dépossédés. Ils sont tellement pressés pourtant de vouloir consommer. Ils sont déboussolés. bien concerné, leur course ne me fait pas rêver.
Steven James, Gunnel, c'est le titre de votre dernier single que l'on peut retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux pour l'instant, Steven. www.stevenjamesgunnel avec deux N et deux L. .com. Voilà. Si vous êtes impatient, attendez quand même la fin de l'émission et puis ensuite vous pourrez aller
avec tous les liens, MySpace, Facebook, tout ça.
Voilà. Dessus. On parle de changer de vie, oser hein, le changement de vie, revoir ses priorités et pour se recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire vous-même d'abord. Hein. On est avec Alain M. Selleck, qui est psychanalyste, auteur de ce dernier ouvrage parmi bien d'autres, bien sûr, L'ouverture à la vie. C'est paru aux éditions Desclés de Brouwer. On a également le plaisir d'avoir avec nous Pascal Soubera, l'ami. Pascal, votre site Anatole Biz.
Anatole.biz.
Anatole.biz. On reviendra là-dessus. Votre activité, en quelques mots, c'est de finalement de, d'ouvrir et de permettre à toutes les mamans d'enfants un peu qui sont arrivées à la vie un peu jeunes, mais un peu prématurées, des vêtements à leur taille.
Des vêtements à leur taille et des vêtements adaptés à leur situation. Et c'est important pour les mamans de se sentir maman aussi au travers des vêtements. C'est sécurisant pour les enfants. C'est très réconfortant et j'ai le sentiment que c'est un vrai soutien pour les proches d'un bébé en avance que de pouvoir fêter sa naissance en lui faisant des cadeaux de naissance tout simplement. Et j'ai notamment affaire à beaucoup de grand-mères qui ne peuvent pas voir leur petit enfant avant des semaines et parfois des mois du fait de l'hospitalisation et qui veulent faire quelque chose pour leur petit enfant.
Ouais, à travers ce cadeau, elles l'enveloppent un peu de toute leur tendresse.
Avec Aline.
On a Pascal Muscat qui est avec nous depuis le début de l'émission. Merci Pascal d'avoir été patiente. Bonjour à vous.
Bonjour, c'était un plaisir de vous écouter, c'est intéressant.
Alors justement, Pascal, vous-même, vous avez connu un changement de vie, un changement de cap, en tout cas professionnel. Mais on voit bien que le cap professionnel, il est souvent la partie émergée de l'iceberg, le dernier maillon que l'on bouge pour faire bouger le reste. Racontez-nous.
Mais pour reprendre un peu les termes du docteur qui est en plateau, qui m'ont marqué et qui ont résumé pratiquement ce qu'il a dit dans les derniers moments, il a parlé de détruire pour reconstruire. Et c'est exactement ça, parce que quand on est cadre et qu'on occupe un poste avec des fonctions importantes, on se dit de nos jours, pourquoi partir ? Il y a le confort financier, il y a des tas de choses qui font qu'il n'y a aucune raison de s'en aller et de détruire ce qu'on a monté.
Votre cas.
Et c'est mon cas, et je l'ai fait pour mes enfants parce que j'avais pas d'horaire, pas de week-end. J'étais complètement dévouée corps et âme à cette entreprise.
Mais vous étiez à l'époque heureuse, ça ne veut pas dire grand-chose, en tout cas bien.
Oui, j'étais épanouie parce que, pour rejoindre un peu aussi, j'étais tournée vers les autres. Donc c'était quand même un métier qui me plaisait, j'étais dans le recouvrement. Mais j'ai rendu ce côté désagréable du recouvrement en côté agréable parce que je le voyais plutôt dans l'aide des gens pour les aider à s'en sortir.
Et il faut dire que vous aviez connu une trajectoire professionnelle assez brillante. Donc par rapport à ce qu'on disait au début de l'émission, j'allais dire votre ego était bien valorisé.
Oui, surtout d'autant plus que je suis autodidacte sur toute ma carrière professionnelle, donc arrivée en démarrant de standardiste sur des hotlines, j'avais fini cadre sur ce poste-là, donc bien sûr, ça flatte l'ego, ça fait plaisir, mais il n'y a pas que ça, donc au bout d'un moment, quand on a tout donné, même si son poste et son job nous passionnent, d'un autre côté, j'avais quand même deux enfants, dont un bébé, qui me voyait pour ainsi dire jamais. C'est mon mari qui gérait, qui réussissait à rentrer pas trop tard. Donc, la destruction a été de tout plaquer quasiment du jour au lendemain.
Pourquoi du jour au lendemain, alors, Pascal ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel a été ce point de rupture qui vous a fait...
Comme disait Steven tout à l'heure, pétage de plomb, je crois. Ouais.
Un pétage de plomb.
Ah, je crois. On ne réfléchit pas et on dit, c'est terminé, je m'en vais.
Là, vous allez voir votre chef et vous dites, bah, je m'en vais.
Voilà, c'est ça. je m'en vais, mais c'est rapide, hein, c'est vrai. On ne réfléchit plus, on a ras-le-bol, on s'en va. J'ai envie de dire, pour rebondir sur autre chose, parce qu'il ne m'aura pas fallu trop longtemps pour me dire, bah, c'est, je vais me tourner vers ma boîte, avec tout ce que ça comporte. Par contre, hein, c'est dur, on vit quand même d'une certaine façon et encore une forme de destruction parce qu'on y perd, on y laisse des plumes, c'est beaucoup de boulot, il y a une grosse perte financière. Mais pour me tourner vers les autres, en l'occurrence ma famille et mes deux petits bouts, je l'ai fait.
Alors là-dessus, pour en revenir très concrètement, vous avez souligné effectivement les pertes que tout changement implique, hein, des pertes de sécurité, donc des pertes psychologiques, mais aussi des pertes concrètes. Souvent, oui. Ça se traduit par effectivement une baisse de salaire. Pour que ça marche, il faut des appuis et il faut des accords, enfin des validités. Alors votre mari, votre chef, il vous dit « Ok, salut, ciao ». Et votre mari, il vous dit quoi? Il vous dit « Pascal, tu deviens folle, prends un week-end, pars en retraite » ou il vous suit tout de suite?
Ça dépend des moments, ça dépend des heures auxquelles je travaille. Non, par moment, quand c'est le dimanche, je le conçois, hein, il me dit, dors plus, si tu veux, prends un appartement tout seul, comme ça on te dérangera pas. Il me dérange pas, mais c'est vrai que je suis un peu absente. Je suis là physiquement, mais ma tête est ailleurs parce que j'ai mon entreprise maintenant et je n'ai pas le choix que de la faire tourner pour espérer un jour pouvoir reconstruire totalement le rythme de vie que j'avais avant, en l'occurrence l'aspect matériel qui fasse que on passe de meilleurs moments que ceux qu'on traverse actuellement.
Vos enfants, vous leur avez fait ce choix comme un cadeau? Ou c'est pour vous que ça a été un cadeau?
Non, ça a été un cadeau pour moi, je pense, enfin pour eux, indirectement pour eux, mais ils ne se rendaient pas compte, ils étaient trop petits, donc eux, ils ne me voyaient pas, je ne sais pas, enfin ils n'étaient pas en mesure de mettre des mots dessus, en tout cas. Je pense qu'ils s'en sont rendus compte puisque j'étais peu là pour le grand qui est un enfant hyperactif, anxieux, stressé, beaucoup plus présente pour le petit, et ce sont deux caractères et comportements totalement différents. Donc ça, il n'y a pas photo, il y en a un qui a payé mon surinvestissement au bureau alors que l'autre est beaucoup plus détendu parce que j'étais là.
Il faut dire que vous êtes passé d'un secteur donc du recouvrement financier, c'est ça,
aux entreprises, hein. J'étais pas sur le particulier.
Et vous êtes maintenant dans un secteur qui est quand même parce que vous êtes dans la cosmétique.
Oui, c'est ça, dans la cosmétique naturelle et plus précisément ciblée sur les essences tropicales. Donc j'ai envie de dire que c'est agréable.
Et c'est un secteur qui vous a été transmis un petit peu de manière génétique, puisque vos parents eux-mêmes avaient déjà une activité dans ce secteur-là.
Mais c'est exactement ça. En fait, Archipel Parfum existait depuis une bonne dizaine d'années quand j'ai décidé de prendre le relais en accord avec mon père, mes parents qui gèrent ça là-bas. Donc ça a été transmis. C'est aussi par contre ce qui m'a permis de pouvoir démarrer facilement par rapport à d'autres, parce que je n'avais pas de stock à acheter, je travaille de chez moi. Donc ça m'a quand même énormément aidée.
Docteur Alaam Selek, on voit bien dans tous ces témoignages que, j'allais dire, la deuxième vie de nos invités, elle se tourne autour de valeurs partagées, des valeurs humaines, souvent des projets de carrière qui, en eux-mêmes, sont porteurs de valeurs qui leur sont vraiment propres. Oui. Dans le cas, par exemple, de Pascal qui est avec nous dans le studio, il s'agit de vêtements, alors même que l'événement qui vous a fait changer, c'est précisément la naissance de cet enfant prématuré. Dans le cas de Pascal qui est avec nous par téléphone, elle s'oriente vers une activité qui lui a été un petit peu transmise, donc autour de valeurs familiales. Est-ce que on est plus soi-même dans cette deuxième partie de vie?
Oui, c'est-à-dire que ce bouleversement, parce que c'est une véritable crise, que tous les trois l'ont traversé. C'est ce qu'on appelle une crise existentielle. Et nous avons, sans nous en apercevoir parfois, nous traversons sans cesse des crises existentielles. Hein. À l'adolescence, la fameuse crise de l'adolescence, ensuite au moment de tomber amoureux, par exemple, le choix d'une profession,
engagement, hein.
Avoir un enfant, le milieu de la vie, et même la sénescence, c'est à chaque fois, c'est une remise en question totale de l'être, parce qu'il y a déjà une remise en question du corps, hein. Ça vient déjà du réel du corps, tout ça, hein. C'est-à-dire, c'est soutenu par la pulsion et le désir. Je disais le désir inconscient. C'est ça qui finit par sortir. Et donc, c'est l'affectivité qui ressort, là. C'est l'affectivité originaire. C'est celle qui nous pousse depuis que nous sommes nés et que nous développons sans cesse.
Qu'est-ce qui se passe, docteur Amselek, si de cette crise ne sort pas un changement de vie ? C'est-à-dire si on remet le couvercle sur la marmite ?
Bien, on remet le couvercle sur la marmite, mais...
Quels sont les risques, à la fois pour soi, pour les autres et pour les risques sociaux ?
C'est difficile de le dire, parce que chaque cas est un cas particulier, mais je pense, moi, que si on remet le couvercle sur la marmite, ça va réexploser plus tard. Vous disiez tout à l'heure que si c'est grâce à cet enfant que vous avez pu changer votre vie. Oui. Mais non aussi, parce que s'il n'y avait pas eu cet enfant, vous auriez changé votre vie quand même. Ça, j'en suis persuadé.
J'aurais peut-être saisi une autre étincelle, oui.
Bien sûr, c'est ce qui vous a poussé, c'est quelque chose qui venait de vous et qui... Votre vie ne vous satisfaisait pas et il fallait vraiment, à un moment donné, vous étiez dans une impasse dans ce que vous nous avez décrit. Donc, de cette impasse, il fallait faire exploser les murs. Hein.
Alors, ce que vous dites est plutôt positif. Vous pensez que, globalement, pour 99% d'entre nous, on répond positivement à ce désir profond de changement, quelle que soit l'opportunité qui nous en est donnée, à un moment ou à un autre.
On répond, c'est difficile de vous donner une réponse unilatérale, parce que il faut compter aussi avec la pression de la société.
Ah, je voudrais qu'on revienne justement sur les conditions de ce changement de vie. Qu'est-ce qui peut le favoriser ?
Il faut être entouré. Hein.
Pascal Muscard avec nous par téléphone.
Il faut être entouré. Moi, je sais que j'ai rapidement intégré un réseau qui s'appelle les Mompreneurs, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est un réseau qui s'est monté rapidement parce que finalement les mamans créatrices d'entreprises à domicile, on est grandement nombreuses et on a toutes vécu quand même de grands moments de solitude. Je pense que Steven l'a dit aussi, quand on se retrouve comme ça un peu largué. Et quand j'ai trouvé ce réseau, j'avoue que radicalement ça a changé beaucoup de choses.
Un réseau de femmes qui ont vécu, qui vivaient la même chose que vous, parce qu'à certains moments on doit se dire qu'on s'est fourvoyé, on doit avoir des grands moments de solitude.
Hein. Des grands moments de solitude, des grands moments de doute. Et ce réseau, on est à peu près toutes dans le même cas d'avoir quitté un mode de vie un peu particulier, de speed, de non-présence dans la famille, de tas de choses comme ça. Et on est quasiment toutes aussi à avoir posé une démission ou avoir claqué une porte en se disant non, c'est terminé. Ok, il y a un bon salaire, ok, plein de choses, mais c'est pas ça la vie. Comme disait Pascal, on va pas attendre que nos enfants aient 40 ans pour nous connaître.
Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, hein, comme disait Musset. Steven Gunnell, vous avez vécu ces moments de solitude, parce que là, vous, changement radical d'environnement, d'univers, d'amis aussi, comment ils vous ont regardé, vos amis, quand ils vous ont... vous en aviez déjà peut-être plus d'ailleurs beaucoup, au moment où vous étiez au fond là.
Oui, je me suis un peu caché surtout, avec un sentiment de honte sur ce que je traversais, sur ce que j'étais devenu, sur l'image que je pouvais... les choses qu'on pouvait lire sur nous dans la presse, un peu people, un peu trash comme ça. Donc il y a un moment donné où en effet, il y a eu l'exil. Voilà, l'exil. Et c'est dans l'exil.
Vous êtes exilé de vous-même et là vous êtes exilé.
Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai quitté la France, je suis parti en Angleterre, etc. D'où au bord du suicide et de l'extrême. Hein, parce qu'à un moment donné, il y a un moment donné où... alors c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec le docteur qui dit qu'à un moment donné, avec ou sans votre enfant, votre vie aurait changé. Je ne suis pas sûr. Parce qu'avec des si déjà dunes, on refait le monde. Et il n'y a personne pour me le prouver. Il n'y a personne pour me le dire. Et donc, à un moment donné, j'ai besoin de toute façon de l'autre, quoi qu'il arrive, pour que ma vie change. En l'occurrence, dans le témoignage de Pascal, c'est à travers la vie de son enfant. Voilà. Moi, c'est à travers la position de ma maman, qui elle-même s'était convertie, avait fait un cheminement, etc., qui me conseille sereinement d'aller prendre un temps de recueil et de réflexion. Et de dire, voilà, va réfléchir un petit peu là où t'en es maintenant.
T'as un grand acte d'amour déjà d'y être allé dans l'état où vous étiez.
Moi, je suis parti là, j'ai redécouvert l'amour par l'obéissance. On dit, tiens, pour faire plaisir à maman. Et c'est dans cette prédisposition-là qu'à un moment donné, dans un contexte physique, social, psychologique, moral, intellectuel, sensible, charnel, qui ne me permettait en aucun cas le sentiment de quiétude et de plénitude à laquelle j'aspirais depuis tout petit, qu'en rentrant dans cette petite église en Angleterre, j'ai été saisi.
Ça veut dire donc, que ça a été une expérience physique, corporelle.
Physique, bien évidemment. Je suis un être de chair, de sang, et j'ai besoin de sentir, de toucher. J'ai besoin de sensationnel, j'ai besoin d'excitation, j'ai besoin de ressentir, de percevoir, de palper. Et ça a été palpable. Et donc, à un moment donné, où du désir s'est passé à la volonté. Demain, je reviendrai pour réexpérimenter. Savoir si ça vient de moi, si je l'ai créé de ma propre personne. L'autosuffisance toujours, hein, le gargarisme, l'orgueil, l'amour propre, l'ego dont saint François te parle très bien en disant que c'est ce qui meurt 15 minutes après nous. Le combat entre l'être et l'avoir, le devenir et le soi, le moi, etc.
Tes combats spirituels, mais évidemment, t'en avais vécu d'autres.
Oui, donc après il y a eu la sécheresse et le sentiment de ne plus toucher, de ne plus sentir.
La sécheresse et la traversée du désert.
Voilà, spirituel. Et donc à un moment donné, c'est dans ma volonté et dans cette certitude, la foi. Donc je passe de l'amour à la foi, de la foi à l'amour, qui fait qu'à un moment donné, je grandis, j'essaie de parfaire ce que je suis, pour répondre de façon très juste à ce que vous avez dit au moment de la pause, après avoir dit « devenez ce que vous êtes » et « soyez ce que vous devenez ».
C'est-à-dire après, à un moment donné... C'était pour poursuivre la citation de Saint-Augustin.
Exactement, et ça c'est très très beau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi en tant que chrétien, ça ne me suffit plus d'être chrétien. Mais si je ne vis pas de l'âme du Christ... Et qu'on parle des valeurs, retrouver à l'essentiel, la famille, le réseau, les copains, les copines, on se complaît, on se retrouve, et puis on s'aide, et puis on se remotive, et on reprend un sens. Moi, je n'ai que d'une seule valeur, le Christ, qui est pour moi le déclencheur de tout, qui me tourne constamment, et me ramène à moi-même, en vue d'un meilleur moi pour l'autre.
Voilà. Le Christ, il vous a saisi.
Oui.
Les amis comptent aussi.
Oui, bien sûr.
Votre femme, vos enfants.
Voilà.
Le Christ, il est aussi chez eux, il est en eux.
Exactement.
Il parle à travers.
Quand je suis devenu chrétien, je suis devenu contemplatif. Et c'est-à-dire qu'à un moment, moi, je pars du principe que la créature n'est rien d'autre que le prolongement de la création du Créateur. Donc en chacun d'entre nous, très loin derrière, il y a le mystère de la vie qui me dépasse, dans lequel j'entends dans un lointain écho, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc très loin derrière... ou très près dans mon oraison, je perçois l'âme du Christ en chacun d'entre nous, Dieu vivant, qui est l'amour, qui est le commencement et la fin de tout, avec un mystère auquel on n'aura jamais fini de répondre. C'est pas une énigme, hein, c'est pas la vie, c'est pas une énigme avec on m'explique le pourquoi du comment, je vis super, mais moi il y a personne pour m'expliquer ce qui fait battre mon cœur. Voilà.
Et donc de là, vous avez conscience d'avoir eu cette grâce, cette chance, diront les non-chrétiens, cette grâce, dirons-nous en tant que chrétiens, d'avoir été saisi dans votre humanité. Donc on revient bien à la question de l'émotion, du ressenti. Docteur Amselek.
J'ai envie de dire alors, que va-t-il se passer pour ceux qui ne sont pas chrétiens? Là, vous monopolisez votre vocation, si je peux dire. Et vous ne voyez pas qu'il y a des gens
qui n'ont pas la foi, qui ne sont pas baptisés.
Ou qui ont une autre foi, ou qui ont un autre parcours.
C'est pour ça que vous êtes tous là ce matin.
Absolument. Et ce que j'ai envie de vous dire, moi, c'est que je préfère parler, moi, de spiritualité, parce que c'est de spiritualité qu'il est question, et que pour moi, c'est fondamental. Hein. L'être humain, c'est un être spirituel avant tout. Donc, je préfère quand même parler de spiritualité laïque, cette spiritualité pouvant prendre les diverses formes selon les croyances de chacun, et ça c'est ouvert, c'est le chemin de chacun. Mais ce que je vois moi en tant que psychanalyste dans ma clientèle, si vous voulez, c'est que d'abord les gens qui viennent me voir, ce sont justement des gens qui sont toujours en crise. Dans cette crise existentielle.
Est-ce qu'on peut vous mettre d'accord en se disant que ça prenne effectivement la forme d'une conversion spirituelle ou d'une conversion? Je crois qu'on peut déjà se mettre tous d'accord autour du terme de conversion. Mm-hmm. Se tourner vers soi, ça peut être à travers Dieu. Mais est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur l'idée qu'il faut se dégluer du matériel?
Je préfère un autre mot que conversion. C'est le mot révélation. Mm-hmm. Et, d'ailleurs, c'est un mot qui va faire le lien entre les religieux et même les athées.
C'est le moment parce que le générique
parce
de fin part. Hein.
La révélation, c'est l'intuition profonde, hein, une intuition profonde du réel qu'on a à un moment donné et qui, dans une crise, fait qu'on va trouver une voie.
Eh ben merci, j'espère que vous nous aurez, et j'en suis sûre, tous aidés à nous révéler à nous-mêmes et pour continuer Saint-Augustin, devenez ce que vous êtes, c'est ça?
Voilà, en vue d'être ce que vous devenez.
Merci à tous, vous avez été formidables. L'ouverture à la vie, c'est l'ouvrage d'Alain Selleck. Sacrifié, c'est celui de Stephen Gunnell qui est paru aux presses de la Renaissance. Alain Selleck, c'était chez DDB. On retrouve tout ça sur notre site internet. Merci beaucoup Pascal, votre site aussi sera sur le nôtre. Merci à Pascal Musca qui était avec nous par téléphone. Très belle journée à l'écoute de votre radio chrétienne et devenez ce que vous êtes.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.
Pour mieux comprendre la famille et faire face à ses défis actuels, pour savoir comment répondre aux demandes des enfants, pour préserver son couple, retrouvez Esprit de famille, animé par Delphine Errant, avec la participation du cabinet Mots Croisés. Esprit de famille, chaque samedi à 10h.
Parce que la musique ouvre les portes de l'âme, le Père Claude Olivier nous mène à la baguette et nous emmène chaque jour dans un voyage intérieur pour explorer avec lui les trésors de la musique sacrée et leur beauté. Les grandes heures de la musique sacrée, tous les jours à 14h30, du lundi au vendredi.
À bientôt, si vous le voulez bien.
Or ou métaux précieux, vous possédez peut-être des bijoux, montres, diamants dont vous souhaitez vous séparer.
À Paris, dans le 6e arrondissement, Boursorama achète en toute discrétion vos valeurs. Lingots, pièces cotées, diamants, platines, bijoux, montres, débris, ainsi que l'argent sous toutes ses formes.
Règlement immédiat, après estimation, expert.